me souviens. Trois mois plus tôt. 12 juillet 2013. Un climat de terreur règne sur la capitale. Une semaine auparavant, à l'heure de la sortie des bureaux, un attentat a ensanglanté Paris. Une kamikaze portant une ceinture d'explosifs s'est fait sauter dans un bus rue Saint-Lazare. Le bilan est terrible. 8 morts, 11 blessés. Le même jour, un sac à dos contenant une bonbonne de gaz remplie de clous a été retrouvé sur la ligne 4 à la station Montparnasse Bienvenue. Heureusement, l'équipe de déminage a pu désamorcer l'engin avant qu'il ne fasse des dégâts. Mais depuis, c'est la panique. Le spectre des attentats de 1995 est dans toutes les consciences. Chaque jour, les évacuations de monuments se multiplient. Le retour du terrorisme cannibalise toute la presse et fait l'ouverture de chaque journal télévisé. La SAT, la section antiterroriste de la CRIM, est sous pression et multiplie les vagues d'interpellations dans les milieux islamistes, la mouvance anarchiste et l'ultra-gauche. A priori, leurs enquêtes ne me concernent pas. Jusqu'à ce qu'Antoine de Foucault, le chef adjoint de la SAT, me demande de prendre part à l'interrogatoire d'un des suspects dont la garde à vue a été prolongée 3 fois et touche à sa fin. Dans les années 1970, au début de sa carrière, Foucault avait travaillé plusieurs années avec mon père avant que leurs chemins se séparent. Il avait aussi été l'un de mes formateurs à l'école de police. Il m'a plutôt à la bonne et me prête même des qualités que je n'ai pas pour pratiquer des interrogatoires.
« On a besoin de toi sur ce coup, Alice.
Que veux-tu que je fasse au juste ?»«
Ça fait plus de 3 jours qu'on essaie de faire parler ce type. Il ne nous lâche rien. Toi, tu peux y arriver. »«
Pourquoi ? Parce que je suis une femme ?»«
Non, parce que tu sais y faire. »
Normalement, une telle proposition devrait m'exciter. Pourtant, là, nulle décharge d'adrénaline, et j'en suis la première étonnée. Je ne ressens qu'une immense fatigue et l'envie de rentrer chez moi. Depuis ce matin, une violente migraine me vrille le crâne. C'est un lourd soir d'été. L'air est brûlant. Paris étouffe sous la pollution et la journée a été assommante. Le 36 s'est transformé en fournaise. Pas de clim, pas d'air. Je sens les auréoles humides de transpiration qui poissent mon chemisier. Je tuerais pour une canette de Coca Light glacée, mais le distributeur est hors service.
« Écoute, si tes hommes n'y sont pas arrivés, je ne vois pas à quoi ça va servir que je m'y mette aussi. »«
Allez !» insiste Foucault.
« Je t'ai déjà vu à l'œuvre. »«
Je vais vous faire perdre du temps, je ne connais pas le dossier, je... »«
On va te mettre au parfum. » Taillandier a donné son accord. Tu montes au front et tu lui fais lâcher un nom. Après, on prend le relais. »
J'hésite. Mais ai-je vraiment le choix ? Nous nous installons dans une salle nichée sous les toits dans laquelle tournent 2 ventilos. Pendant 1 heure, 2 officiers de la SAT me briefent sur le suspect. L'homme, un certain Brahim Rahmani, surnommé le marchand de canons ou l'artificier, est surveillé depuis longtemps par la section antiterroriste. Il est suspecté d'avoir fourni les explosifs au groupe qui a fait sauter le bus rue Saint-Lazare. Lors d'une perquisition, on a saisi chez lui de faibles quantités de C4, du PEP 500, des pintes plastiques, des téléphones transformés en détonateurs, ainsi qu'un véritable arsenal. Des armes de tout calibre, des fers à béton métallique, des gilets pare-balles. Après 3 jours de garde à vue, l'homme n'a absolument rien avoué aux enquêteurs. Et l'analyse de son disque dur comme de ses échanges électroniques lors des derniers mois ne suffit pas à prouver sa participation, même indirecte, aux attentats. C'est une affaire passionnante, mais compliquée. À cause de la chaleur, j'ai du mal à me concentrer. Mes 2 collègues parlent vite, me livrent une foule de détails que je peine à enregistrer. Alors que ma mémoire est généralement excellente, dans la peur d'oublier, je me saisis d'un bloc pour tout noter. Lorsqu'ils ont terminé, ils m'escortent jusqu'aux coursives de l'étage inférieur où se trouve la salle d'interrogatoire. Foucault, Taillandier, tout le gratin est là, derrière une vitre sans teint, pressé de me voir à l'œuvre. À présent, moi aussi, j'ai très envie d'entrer dans l'arène. Je pousse la porte et pénètre dans la salle. Il y fait une chaleur d'étuve à la limite du supportable. Menotté à une chaise, Rahmani est assis derrière une table en bois à peine plus grande qu'un pupitre d'écolier. Il transpire, tête baissée. C'est à peine s'il remarque ma présence. Je retrousse les manches de mon chemisier et j'essuie les gouttes de sueur qui perlent sur mon visage. J'ai apporté une bouteille d'eau en plastique pour établir le contact. Soudain, au lieu de la tendre au suspect, je l'ouvre et en bois une longue rasade. D'abord, l'eau me fait du bien. Puis, brusquement, j'ai l'impression de perdre pied. Je ferme les paupières. Un bref vertige me force à m'appuyer contre le mur pour reprendre mes esprits. Lorsque j'ouvre les yeux, je suis déboussolé. Dans ma tête, un grand blanc. Le vide. Et une angoisse terrible, celle d'avoir été téléporté dans un endroit inconnu. Je me sens vaciller et je m'assois sur la chaise en face de l'homme avant de lui demander « Mais qui êtes-vous ? Et qu'est-ce que je fais ici ?»